Eh bien, c'est le temps de prendre des nouvelles du Canada francophone et on rejoint Julien Caillouette qui est rédacteur en chef chez Franco-Presse. Allô, Julien.
Salut, Denis Martin, ça va bien?
Oui, ça va bien. Alors, Phil Rivière donne sa langue au chat, c'est dans Franco-Presse.
Oui, Phil Rivière, c'est un créateur de contenu franco-ontarien. Il a été prolifique pendant plusieurs années sur YouTube, moins au cours des dernières années. Mais en 2021, il avait commencé la production d'une série documentaire sur la francophonie en milieu minoritaire. Elle est disponible gratuitement pour tout le monde sur YouTube. Là, c'est ce qui peut faire la différence avec d'autres émissions produites par des grandes chaînes sur le sujet. Puis, justement, c'est que la série s'appelle « Donner sa langue au chat ». Le premier épisode concernait les quatre premiers siècles de lutte franco-canadienne, puis il est sorti à la fin 2021. Le deuxième, il est sorti à la fin 2022, puis ça portait plus sur la rivalité entre les francophones et les anglophones du Canada. Puis, et aussi les Québécois. Puis finalement, c'est que là, il a fallu attendre 3 ans pour avoir le troisième épisode qui est sorti au début juillet. Puis celui-ci porte sur les réalités actuelles et on parle surtout d'insécurité linguistique là-dedans. Donc, on voulait parler à Phil pour savoir pourquoi ça avait pris autant de temps à avoir le troisième épisode. Puis ben la réponse rapide, c'est qu'il y a des imprévus dans la vie. Il ne pouvait pas produire celui-là aussi rapidement parce qu'il y a eu des changements dans sa vie et dans l'équipe qui l'aidait à produire la série. Donc, c'est pour ça que ça a été aussi long. Mais il y a bien l'intention de faire le quatrième et dernier épisode de sa série documentaire plus rapidement.
D'accord. Les banques alimentaires ne peuvent plus se permettre d'acheter du bœuf et du poulet. Ça, c'est dans la Caisse Nouvelle.
Oui, comme explication, ce qu'on nous dit, c'est que au Nouveau-Brunswick, mais en fait en Atlantique, c'est l'endroit au Canada où la viande est le plus chère. On nous donne l'exemple du poulet qui, au Nouveau-Brunswick, en Atlantique, se vend 18,96 $ du kilogramme. En comparaison, en Ontario, c'est 16,42 $ du kilogramme. On parle aussi du porc là-dedans, puis même si le porc est moins cher que le poulet, c'est quand même plus cher en Atlantique. Ce qu'on nous dit, c'est que la raison pour le prix élevé, c'est le manque de concurrence dans la capacité d'abattage en Atlantique. Il y a pas beaucoup de centres d'abattage, donc les prix sont plus élevés. Puis, même s'il y a un nouveau centre en construction, une nouvelle usine d'abattage en construction au Cap-Breton, on n'est pas certain que ça va avoir un si grand effet sur les prix. Pour en revenir aux banques alimentaires, ce qu'elles expliquent, c'est qu'avec ce prix élevé-là de la viande fraîche, ils n'ont plus vraiment les moyens de remettre dans leur inventaire. Quand le poulet et le bœuf sont devenus trop chers, ils s'étaient retournés vers le porc, mais même cette viande-là est rendue trop chère, autour de 13 $ le kilo. Donc maintenant, ce qu'on offre, c'est de la viande en conserve parfois, comme du poulet ou du poisson. Le problème, c'est que ces viandes-là, ces produits-là, sont un peu de moins bonne qualité que des produits frais. Ce qu'elles voient avec la hausse des prix, les banques alimentaires fournissent de moins en moins d'aliments de bonne qualité et les gens aussi se nourrissent de moins en moins bien. Donc, même les 9 millions de dollars sur 3 ans annoncés par le gouvernement du Nouveau-Brunswick ne seront pas suffisants pour compenser cette hausse-là des prix en épicerie au cours des dernières années.
Saga du TGV, l'Ontario tempère son appui au projet, c'est dans le droit.
C'est arrivé la semaine dernière, il y a une dizaine de députés conservateurs de l'Ontario et des députés de l'Est de l'Ontario qui ont publié une lettre ensemble et qui remettent en doute le processus de consultation des populations touchées par le projet de train à grande vitesse qui devrait relier Québec à Toronto. Le projet soulève beaucoup de questions, puis ALTO, l'agence qui est responsable de la gestion et de la construction éventuelle du TGV, n'est pas toujours transparente, disent les députés. De son côté, la compagnie ALTO répond que ils sont en train de mener le processus de consultation le plus vaste de l'histoire du Canada et que les échanges continuent, mais ils restent vagues sur les critiques en question. Ce qui est intriguant dans cette lettre-là publiée par les députés conservateurs, c'est qu'elle est arrivée 5 jours après que le gouvernement fédéral ait refusé d'appuyer le projet d'agrandissement de l'aéroport Billy Bishop, trouve sur une île juste en face du centre-ville de Toronto. Ça fait plusieurs années que le gouvernement de l'Ontario aimerait agrandir cet aéroport-là, qu'il y ait plus de circulation, mais ils sont un peu bloqués par un règlement qui empêche l'atterrissage de jets à cause du bruit, puis la population du centre-ville refuse le changement le règlement pour pouvoir accueillir des jets. Donc, il n'y a personne qui le dit ouvertement, mais ce serait possible que le gouvernement Ford ait décidé de retirer partiellement son accord au projet de TGV pour protester contre la décision de ne pas appuyer l'agrandissement d'aéroports. Sauf que il y a une entente officielle de collaboration entre les deux paliers de gouvernement. Pour le TGV, il n'y en avait pas vraiment, il n'y avait pas de promesse, nous dit-on, du côté de l'agrandissement de l'aéroport.
Les prix des loyers, là, c'est encore très élevé. Il y a des hausses de faillite. Là, on est dans le Franco et la Liberté.
Oui, je vous ai apporté deux sujets en un. Premièrement, il y a le journal Le Franco qui nous parle du prix des loyers en Alberta, qui serait les quatrièmes plus élevés au Canada pour des appartements de deux chambres. Ils sont après la Colombie-Britannique, l'Ontario et la Nouvelle-Écosse. Le prix des appartements de deux chambres à Edmonton, c'est autour de 1 600 $ par mois. Puis à Calgary, la moyenne, c'est 1 900 $ par mois. Puis, ce que nous dit le Franco, c'est que ça complique la vie des immigrants et des étudiants qui peuvent parfois se retrouver à 4 personnes dans des appartements de deux chambres. Du côté du journal La Liberté, je dis que c'est lié, c'est qu'eux nous informent que le Manitoba a vu le plus haut taux de procédure d'insolvabilité depuis 2011, l'année dernière. Une explication possible, c'est qu'il y a des gens qui ont acheté des nouvelles maisons au début de la pandémie, hein, 2020-2021, donc le renouvellement de leur hypothèque serait venu à échéance en 2024-2025. Puis, s'ils avaient acheté des nouvelles maisons à cette époque-là, là, les taux d'intérêt sont plus élevés maintenant et ils sont peut-être plus capables de payer leur maison. Donc, bon, on peut vendre, mais il peut y avoir aussi un problème d'insolvabilité s'ils ont renouvelé à un taux plus élevé. Puis, la tendance semble se confirmer cette année parce qu'il y aurait eu une hausse de 13,1% du nombre de dépôts de demandes d'insolvabilité au cours des 6 premiers mois de l'année par rapport à l'année dernière au Manitoba.
C'est triste, hein, les gens qui perdent tout comme ça, là, c'est vraiment triste. Mm-hmm. Le Théâtre français de Toronto aura finalement une salle permanente. C'est l'Express qui nous raconte ça.
Oui, on finit avec une bonne nouvelle quand même. Les dernières fois que je vous en ai parlé, là, il y avait des signes encourageants, mais ça a finalement été confirmé à la fin juillet. Le Théâtre français de Toronto va avoir sa propre salle dans un projet multifonction sur la vue Danforth Avenue, Danforth à Toronto, là, qui est une artère assez passante. Il y a déjà dans ce quartier-là des écoles et des garderies francophones. Donc, le gouvernement fédéral avait promis un financement pour le projet, mais ce n'était pas assez pour le garantir. Donc, la garantie est arrivée lorsque le conseil municipal de Toronto, le 26 juin, a accordé une garantie de prêt pour faire débloquer le projet, une garantie de prêt de 3 millions. Il y a eu une pelletée de terre symbolique le 31 juillet. Il y avait même la mairesse de Toronto, Olivia Charles, qui était présente et qui a souligné l'importance du français et du bilinguisme pour la ville de Toronto. Puis, je vous disais aussi à l'époque que le Théâtre français de Toronto n'a jamais eu sa salle à elle. Ça a toujours été un théâtre un peu ambulant. Puis, ça compliquait la relation avec le public. Puis, connaître l'horaire puis où étaient les choses. Donc là, d'avoir leur site permanent, ça va simplifier cette relation-là. Puis, on promet aussi que la salle ne sera pas seulement pour le Théâtre français de Toronto. Elle va pouvoir être louée par d'autres organismes, aussi bien des francophones que des anglophones que des allophones.
Julien Caillouette, qui est rédacteur en chef chez Franco Presse. Merci beaucoup.